bienvenue pour ce nouveau numéro de la loi des séries, 25 minutes de face-à-face avec une personnalité du monde des séries. Et cette semaine, on va parler écriture, on va parler scénario, notamment de fiction quotidienne. La fiction quotidienne est très présente sur nos écrans depuis maintenant plus de 20 ans. Elle est arrivée de Plus belle la vie sur France 3 en 2004. Et puis depuis, chaque chaîne s'est pourvue de son soap avec plus ou moins de succès. On va y revenir. Mais on avait envie de pouvoir parler de cette écriture si particulière au moment où justement l'une d'entre elles, malheureusement, va s'arrêter, et au moment où aux États-Unis un autre de ses feuilletons quotidiens fête ses 60 ans, c'est Days of Our Lives. On va y revenir. Je voulais vous parler de l'écriture du soap à l'occasion évidemment de toujours la diffusion sur M6+ des derniers épisodes de Nouveau Jour.
Précédemment.
Regardez qui vient de franchir les 15 000 abonnés sur TikTok.
Bravo. Ça va pas fort.
Les gens viennent plus à domicile pour se faire couper les cheveux.
Je vous déclare mari et femme.
Essaye de t'étendre un peu, hein.
Gabriel, tu fasses un effort pour ta mère.
Ouais, t'as raison, Magali.
Mon téléphone est bloqué sur ça. Tu crois que je devrais m'inquiéter?
Ce soir, c'est ton soir, alors profite.
Gabriel! Je revois les flammes, je revois une explosion, je revois une...
On est au tout début de Nouveau Jour. C'était en juin de cette année, au mois de juin, pour le lancement de cette série dont on voit le très très beau visuel derrière. Bonsoir, Geoffrey Bideau.
Bonsoir.
Ça va bien?
Très bien.
Merci d'être avec nous. Vous êtes scénariste, auteur. Vous avez collaboré justement sur pas mal de feuilletons quotidiens et notamment sur celui-là, Nouveau Jour. Est-ce à dire que quand on est scénariste, travailler sur un feuilleton quotidien, c'est un exercice et un travail particulier?
C'est très exigeant, je trouve. Et c'est surtout, comme son nom l'indique, quotidien. Donc on a un rythme qui est intense. C'est pas comme une série où de 52 minutes où on va travailler pendant deux semaines seul chez soi et on doit rendre au producteur, travailler avec le producteur et envoyer à un diffuseur. Là, on est vraiment sur... j'ai travaillé au dialogue, au séquencier sur plein de séries. Et par exemple, sur des séries comme Ici tout commence ou Plus belle la vie en séquencier, on doit avoir 40 séquences par jour à écrire le lundi. Et le mardi matin... on jette tout et on recommence. Donc en fait, il faut avoir assez d'ego pour mettre des choses qui nous intéressent. Et en même temps, il faut qu'on soit capable de dire je vais lâcher un petit peu ce qui ne marche pas et essayer de trouver d'autres idées dans le lendemain, quoi.
Alors là, on parle de Nouveau Jour, puisque c'est aussi la raison pour laquelle on est là. Nouveau Jour, nouvelle tentative d'M6, on le rappelle, hein, c'est la troisième déjà, après Pas de secret entre nous et Paris 16e, de lancer un feuilleton quotidien. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a l'impression, en termes de diffusion en tout cas, qu'on n'a pas retenu les erreurs des deux premières tentatives. C'est ça qui est fascinant.
C'est sûr.
C'est que comment on vit quand on est auteur, mais tous investis là-dedans et qu'on voit que finalement notre travail n'est pas facilité par une diffusion pour le moins chaotique. Hein. Je le dis en toute transparence, vous êtes lancé à 20h40, mais le JT est fini depuis 20h20 et donc il y a 20 minutes de publicité pendant laquelle France Télévisions en profite pour balancer des inédits d'Un si grand soleil. Rien n'est fait pour que ça fonctionne finalement.
Ah ouais, non seulement il y avait M6 qui s'était mis des bâtons dans les roues, et ensuite on avait la contre-attaque. Et la contre-attaque, effectivement, on avait à la fois le journal de TF1 qui était plus long, et on avait les deux épisodes d'Un si grand soleil. Et on est lancé un 30 juin, donc en plein été.
Sachant que... ce que je pourrais dire, c'est que par exemple, DNA a été lancé un 17 juillet et ils sont toujours là. Donc
ouais.
L'été, c'est pas forcément une mauvaise habitude.
Alors ça dépend, parce que là, c'était assez tôt dans l'été et il y avait aussi ce truc de grosse nouveauté. C'était dans l'après-midi, il me semble, au fin d'après-midi. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de soap, en tout cas de série quotidienne. Et là... 20h40, nous, on était contents au début.
Pour la lumière, effectivement.
Et il y a tout pour la lumière, effectivement. Et à 20h40, nous, on était assez contents au tout début, parce qu'on s'est dit, en fait, les gens, ils seront au camping, ils regarderont ça. Et on se pensait, enfin, on nous avait dit qu'on allait laisser le temps. Donc, on s'était dit, en fait, ça va être diffusé tout l'été et c'est plutôt vers septembre, octobre, que les premières audiences compteront vraiment.
Je rappelle que Plus belle la vie, ils ont mis 6 mois à s'installer et ils sont passés au bord de l'annulation.
Exactement. Surtout que nous, on était dans un truc sur Nouveau Jour, on était aussi un petit peu en phase de test sur les curseurs de comédie et de soap. C'est-à-dire que là, si vous regardez bien les premiers épisodes de la série, on est beaucoup sur de la comédie. Il y a beaucoup d'intrigues B qui sont très, très comédies parce que c'était une demande de la chaîne qui n'était pas forcément une bonne idée, à mon sens. Hein. C'est que je parle que à mon avis,
de il y en a dans tous les films au quotidien, donc la différenciation, elle se fait pas. Donc c'est certain que...
Exactement. Et là, ce qu'ils voulaient, c'est avoir un petit peu plus de comédie que les autres séries, puisqu'on était sur M6 et que le public habitué à cette heure-là à regarder scènes de ménage ne voulait pas être très déconcentré. Le problème, c'est que les gens qui voulaient voir scènes de ménage, ils voulaient voir scènes de ménage. Et donc, ils s'en fichent un petit peu des histoires de « mon père n'est pas mon père, ma sœur et mon frère cachés », etc. Et en même temps... des gens qui voulaient vraiment voir une série quotidienne avec du full sup, des grands sentiments, des choses comme ça, ils étaient un petit peu frustrés quand arrivaient les intrigues B où on était sur de la comédie.
Je confirme.
nous, on a eu ce truc-là aussi. Et en fait, même les deux premiers épisodes, enfin l'épisode 2 et l'épisode 3, ont été remontés pour qu'il y ait plus de comédie. Parce qu'il y avait moins de comédie dans l'épisode 2 et 3. Et
mais on a le temps de, pardon, d'être technique puisqu'on parle d'écriture. Est-ce qu'on a le temps? Vous avez commencé, je crois, le tournage au mois d'avril.
Ouais.
Donc ça veut dire que vous avez, grosso modo, quand vous arrivez à l'antenne, vous avez 2 mois et demi de stock.
Ouais.
Ça veut dire que concrètement, les épisodes sur lesquels vous travaillez fin juin, quand la série se lance, c'est ceux que le public va découvrir peu ou prou au mois de septembre.
C'est ça.
Pratiquement, et donc vous faites le calcul, au moment où la chaîne annonce l'annulation de la série. Quelle est la latitude pour des auteurs pour corriger quelque chose? Parce qu'on sait que Plus belle la vie, c'est ça qui a fait qu'ils ont pu changer, c'est qu'on a insufflé une dose de thriller et de polar et que ça a fonctionné comme ça. Vous aviez quelle latitude de changer ce qui ne fonctionnait pas au début? Quasiment aucune.
Pratiquement aucune. Après, en interne, nous, les auteurs, quand je dis nous, c'est vraiment les auteurs, on se disait, on a envie d'aller sur quelque chose de plus, beaucoup plus feuilletonnant. Vous voyez bien que, de toute façon, les premières audiences, elles ne fonctionnaient pas très très bien. Donc ça, ça a pu aller dans notre sens, c'est-à-dire de se dire, on va faire des grandes intrigues. Et là, par exemple, si on regarde les épisodes, s'il y a des gens qui regardent les épisodes, mais on en a, parce qu'on a 400 000 spectateurs.
Moi, je regarde, monsieur.
Merci beaucoup. On a 400 000 spectateurs quand même en replay, ce qui est quand même très, très bien.
Ce qui est, je crois, un paradoxe, c'est que c'est à peu près, je crois, l'audience que fait Plus belle la vie sur TF1+.
Ouais.
Donc, peu ou prou, vous êtes dans cette fourchette de public.
Ce qui est encore plus rageant, parce qu'on se dit, si on nous avait laissé le temps, on est tous convaincus que si on nous avait laissé le temps, la série, elle aurait marché. Parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, c'est des personnages auxquels on s'attache.
Très soap.
Très soap. Et du coup, ça, c'est la grande différence qu'on avait avec d'autres séries quotidiennes où vraiment on a eu la chance à un moment donné de faire ce qu'on avait envie de faire. C'est-à-dire dire, nous, la petite comédie, c'est bien gentil, mais il y a des trucs où on aimerait avoir des grands...
On le voit dans le curseur que prend la série, même au mois de septembre, avec cette intrigue autour de Laetitia Milo. Et puis, ce qu'on voit en ce moment, une espèce d'inspiration à la You sur un personnage qui a vrillé complètement. On voit qu'on est très, très soap. Mais par exemple, prenons l'exemple. On voit Laetitia Milo. Dans le premier épisode, elle est au centre de cette espèce de flash forward, c'est-à-dire de teasing de ce qui va se passer dans la série. Sauf qu'on la voit dans le premier épisode, et puis Laetitia Milo, elle part, et on la revoit plus avant 3 mois et demi. Est-ce que là, il n'y avait pas une erreur de calcul et de focale?
Moi, je vais être tout à fait honnête, après, quitte à me faire des ennemis chez M6, mais j'en ai déjà pas mal. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la série a été écrite sans Laetitia Milo. Et on avait déjà bien avancé, on avait déjà bien écrit. Et à un moment donné, M6 a voulu avoir une star pour sa série, ce qui est tout à fait logique. Et ils ont voulu avoir Laetitia Milo.
Bruno Solo et Hélène Noguera ne sont pas des petits perdreaux de l'année.
Oui, mais quelqu'un qui soit plus, exactement, plus série quotidienne. C'est-à-dire que Bruno Solo et Hélène Noguera, c'est pas le même public que Laetitia Milo,
évidemment,
qui est un peu plus populaire.
Il a fallu intégrer Laetitia Milo.
Donc il a fallu intégrer Laetitia Milo qui était en tournage pour Le Meilleur Pâtissier. Et nous on était là, mais les gars vous êtes bien gentils. Nous on a déjà écrit nos 20 premiers épisodes. On fait comment Et donc là on nous a demandé de rajouter on avait un flash forward qui n'était pas celui-là. Et on nous a demandé de rajouter des flash forward avec Laetitia Milo sur le temps où elle était présente,
c'est-à-dire plus tard.
Voilà. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec Laetitia Milo qui voulait absolument sur l'affiche. Nous, à la mettre dans une intrigue qui, en plus, comme on était dans une recherche de corbeau dans ses premiers épisodes, qui était totalement biaisée, en fait, on avait l'impression que son histoire était liée, alors que pas du tout. Et nous, on leur a dit, c'est pas lisible. On nous a dit, si, faites-nous confiance.
Il n'y avait pas moyen, je dis une bêtise, mais de tout relier. Parce que on parle d'écriture de soap, la vraie différence fondamentale. Tiens, on va voir un générique d'une série, et puis je pose la question juste après. Voyons le générique de cette série qui fête cette année ses 60 ans aux États-Unis. Regardez.
Like sand through the hourglass, So are the days of our lives.
C'est des jours et des vies, c'est une vraie institution aux États-Unis, ça fait 60 ans qu'ils existent. Et la particularité des soaps américains, je pense que vous les connaissez vous aussi, c'est cette capacité non seulement à interconnecter toutes les intrigues et à les étirer sur le long terme. En France, concrètement, quand on fait du feuilleton quotidien, les Arches, elles ne peuvent pas faire plus de 3 semaines, sinon on perd le spectateur.
Ouais, c'est exactement ça. C'est 3 semaines, 4 semaines parfois, de plus en plus 2 semaines aussi. Quand les diffuseurs ont peur de prendre des risques, qu'il y a des sujets un petit peu touchy où on va aller dans des endroits où on n'était jamais allé avant, on va peut-être faire des intrigues qui sont un petit peu plus courtes, mais on s'étale plus comme on le faisait à l'époque. Moi, je travaillais à l'époque sur Plus belle la vie où on faisait des intrigues qui duraient 2 mois.
Ouais, voire 2 ans.
Ouais. Avec l'enchanteur.
Avec l'enchanteur qui a duré 2 ans.
Voilà, on a fait des choses qui étaient très 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 longues. Là maintenant, il faut que ça soit très très rapide.
C'est comme une arche de polar, quoi.
Exactement. Et là, le problème, par exemple, avec ce personnage de Laetitia Milo, c'est que nous, on avait déjà 3 arches qui avaient été écrites. Enfin, tout avait été validé. Et ces séquences ont été rajoutées. C'est vraiment des ajouts. On ne pouvait plus rien changer. Je crois que la plupart des tournages avaient déjà été faits, des autres intrigues. Donc, en termes d'écriture, on ne pouvait rien faire. Nous, on savait déjà qu'on avait cette 4e arche qui lui était consacrée sur les femmes battues, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a géré. Alors, je dis on et j'oublie de citer les noms, mais c'est Mohamed Benyeklef et Marie Moisan qui
sont les deux créateurs de la série.
Qui ont créé la série et qui ont créé ces arches-là aussi. Et
avec une vraie volonté, on y revient, de rendre hommage au soap. Ouais. C'est-à-dire que c'était la volonté depuis le départ, avec des intrigues. Il n'y a pas forcément de flics qui viennent enquêter. L'évolution des personnages est mue par les intrigues et pas par le polar en lui-même, forcément. Il peut se passer plein de choses, ce qui existe dans les soaps du monde entier, sauf chez nous, où il y a toujours un flic qui vient pour faire bouger l'histoire. Est-ce qu'on peut tout se permettre pour élargir sur l'écriture du soap? Est-ce qu'on peut tout se permettre en France?
On a envie de tout se permettre, mais on ne peut pas tout se permettre. Et c'est ça la grosse difficulté, c'est que justement, Mohamed, Marie et moi, on est vraiment des fans absolus de soap, où il se passe tout et n'importe quoi. Même le plus bel la vie de l'époque, avec Vasago, le diable, des choses comme ça, où on se dit, bon, en fait, ils sont allés tellement loin.
C'est quoi? Vous me faites ma transition. Alors, on va voir un extrait, justement, de Days of Our Lives.
Ouais.
On est en 2021. Ils ont ressorti du chapeau une intrigue qui était très, très connue dans la série. La première fois, c'était en 1995. Vous allez voir, c'est juste un face-à-face. On est dans du soap pur jus, face-à-face, beaucoup de dialogue entre John Black et Marlena Evans. Et voilà ce qu'on voyait dans cet épisode. Regardez.
You should stop talking now before you say something you'll regret.
It's you, isn't it? You have possessed my wife again, haven't you? I know who you are, and I'm ready for you. And I swear to God, I will battle you for my wife, and I will defeat you just like I did the last time.
Aren't you the clever one, John Black? There's nothing you can do about it. Your precious Marlena is mine now.
Marlena Evans, possédée par le diable.
Mon rêve.
Comme il l'avait fait. Mais on a envie de voir ça en France. On a l'impression qu'on ne peut pas se permettre ce genre d'excès. Alors, je ne jette pas la pierre aux chaînes. Le public est capable d'accepter à peu près tout et n'importe quoi d'une fiction étrangère. Dès que c'est français, il faut qu'il y ait du réalisme.
Ouais. Et pas qu'en soap, en fait. Et pas qu'en série quotidienne, en fait. C'est vraiment... Nous, vous nous laissez avec Mohamed et Marie, on part là-dessus, on part sur des gens qui ont des pouvoirs magiques et tout. Enfin, vraiment, on va être dans des trucs de fou. Après, il y a toujours ce truc français de la peur de s'éloigner du réel. Il y a vraiment ce truc-là qui est très, très présent.
Je crois qu'on confond le réel et le réalisme. On peut vivre dans une société réaliste avec des gens auxquels on peut s'identifier et que les situations ne soient pas réalistes. Parce que je pense que Plus belle la vie, Demain nous appartient, avec leur dose de meurtre. Ok, oui. Les carrés ne sont pas du tout réalistes.
Non, mais on est toujours dans ce truc-là de... il faut qu'il y ait la petite scène de petit déjeuner, il faut qu'on soit dans le quotidien des Français, d'où cette importance. On n'a pas des intrigues B comédie dans Days of Our Lives, des trucs comme ça. On n'a pas, dans Santa Barbara, il n'y avait pas des blagues de Eden et Cruz qui faisaient des petits trucs le matin avec leur pain au chocolat. Ça, c'est un truc très français. enfin, et italien aussi, en Italie, ils font beaucoup ça aussi. Mais de tout ramener à un truc très quotidien, des Français qui se reconnaissent parce que... mais même ce côté-là, très dynastie.
Over the top.
Over the top. On l'avait dans Ici, tout commence, au tout début. Nous, on avait travaillé sur des intrigues. Moi, je me rappelle, j'avais écrit un truc où Clotilde foutait le feu au château pour montrer que Jérémy comptait pour elle, c'était plus important que le château, etc. Jérémy étant son fils. Et en fait, on nous a dit non, mais c'est pas possible. Ça reste quand même une maman. Et en fait, on ne peut pas aller dans des trucs qui soient totalement fous. Et c'est vrai que sur Ici tout commence au tout début, c'était notre demande. On était en mode, on va avoir des gens qui se tirent les cheveux, qui se jettent dans les escaliers. On l'a fait une fois. Et Clotilde a fait croire. Ben voilà, par exemple, l'intrigue la plus sobre qu'on ait faite, c'est Laetitia et Clotilde, où Clotilde se fait pousser dans les escaliers et elle fait croire qu'elle est enceinte. Et ça, pour le coup, ça a été hyper dur de le vendre. Parce que c'était, mais Clotilde, elle ne peut pas mentir sur ça, etc. Et c'est pour ça que là, on était assez contents sur Nouveau Jour, c'est qu'on nous a laissé faire des trucs qui étaient quand même fucked up. Là, bah, l'intrigue que Mohamed et Marie ont imaginée autour de Max, qui est une intrigue à la You avec une voix off, ça va très, 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 très loin parce qu'on va aller jusqu'à un mariage et tout. On se dit, bon, ça, on n'aurait pas pu le faire avant. Mais aller jusqu'à une possession ou des choses comme ça,
ça...
Mon rêve,
mais
mon
oui, mais rêve, rêve aussi, monsieur.
Moi, je rêverais qu'on fasse un Sous le soleil. Et sache qu'on va, pourquoi personne ne l'a encore fait. Enfin, si je comprends, mais un truc sur Netflix, sur Amazon ou n'importe quelle plateforme, une série hebdomadaire 52 minutes, à la Sous le soleil, mais avec des trucs comme ça. Où les trois filles qui sont serveuses dans un café, elles ont des pouvoirs, il y a des démons.
Ceci dit, avec Soleil Noir, on n'en est pas très loin. Ils ont quand même poussé les curseurs très très loin. Avant de refermer cette émission et revenir justement sur cette fin de Nouveau Jour, un truc sur lequel on est à peu près d'accord entre la France et les États-Unis, c'est sur ces arches un peu catastrophes. Il y en a eu dans Ici tout commence avec le déraillement d'un train. Mais moi, je ne résiste pas à l'envie de vous remontrer un passage over the top. On est dans Sunset Beach. Un gros clin d'œil à l'univers d'Aaron Spelling et à la croisière s'amuse. Aaron Spelling s'était fait plaisir avec un paquebot et un tremblement de terre. Regardez. C'est terrible parce que quand je vois ces plans sur la gelée qui tournent et qui tombent et tout ça, je pense à Y a-t-il un flic pour sauver la reine ou à Outshot, et je peux pas m'en empêcher. Mais voilà, un tremblement de terre au large de Los Angeles, les personnages qui sont tous sur un paquebot, le paquebot se retourne de façon de Poséidon, et puis il se passe tout ce qui se passe à l'intérieur avec des sous-intrigues. Et ça, les Américains, ils savent très bien faire, c'est-à-dire qu'on prend un gros bloc d'intrigues et on décline des petites intrigues à l'intérieur, mais toutes sont interconnectées. Et ça, c'est ce qui nous manque. Je crois que si on faisait ça, on arriverait à fidéliser le public peut-être de manière plus importante.
Bah, moi, j'en suis convaincu. Après, il y a aussi voilà, ce qu'on avait fait sur l'intrigue du train, par exemple, dans Ici tout commence. Ça, on était hyper hypé par l'idée. Et après, on nous a dit, oui, mais en fait, il ne faut pas qu'il y ait de morts, il ne faut pas qu'il y ait de blessés graves et tout. Et en fait, ça aussi, c'est un truc où on voit à chaque fois un peu petit. Parce qu'on se dit, mais en fait, à partir du moment où il y a un train qui déraille, on a des morts, en plus, on avait des comédiens qui allaient partir et tout. Donc, on s'est dit, bah, tuons-les, faisons le truc.
Ils veulent pas faire de deuil.
Voilà, donc pas de deuil, pas de truc qui soit pas feel good. Et à partir du moment où on fait une catastrophe, c'est quand même compliqué.
C'est ce que disait, je crois, J.J. Abrams sur Lost. Il disait, pour qu'on s'inquiète pour nos personnages, il faut que certains puissent mourir.
Bien sûr.
S'ils ne meurent pas, ça ne marche pas. Là, on est à un mois de la fin de Nouveau Jour. Il a fallu retravailler ces scénarios pour pouvoir coller évidemment à cette fin. Est-ce que globalement, peu ou prou, les scénarios qu'on a en ce moment sont ceux que vous aviez imaginés et c'est juste la fin qui est retravaillée, ou c'est tout l'enchaînement qui est repensé?
Non, on a tout gardé. On avait juste commencé une nouvelle arche. En fait, nous, on était déjà sur la saison 2, donc on avait... on avait des chasses folles, dont des gens enfermés dans des caves. Ouais, je sais pas si on a le droit de spoiler, mais de toute façon, la série est finie et tout. Mais on avait l'arrivée de Brenda McBell, la fameuse auteure, autrice que adore la réceptionniste. Et en fait, elle était liée à Joey et toutes les deux avaient quelqu'un dans une cave enfermée et tout. Et c'était Thelma et Louise, mais à 60, 65 ans. C'était incroyable.
Et puis, on peut se le dire, il allait revenir, le grand-père.
Ah bah ça, vous verrez dans le dernier épisode, parce que justement, la toute dernière semaine, on l'a retravaillé pour... on avait lancé plein de pistes, donc on a un peu refermé tout. On a donné une belle fin à tout le monde. Donc c'est un petit peu bisounours. Ça fait un peu une petite semaine où tout le monde s'est réconcilié.
Normalement, il n'y a pas de fin dans le soap.
Exactement. Et on a quand même... Et ça, c'est Mohamed qui a insisté pour faire quand même
un cliff.
Il a dit tant pis s'il n'y a pas de fin, mais on ne peut pas... Quand on a des fans de soap, ne pas faire cette fin-là.
C'est comme ça que c'est fini Dallas. Hein.
Exactement. Donc, on a fait une fin ouverte.
Avec le grand-père qui revient.
On a voulu faire plaisir aux gens. Mais en même temps, les frustrer un peu.
Mais parce que c'est ça qui est fort, c'est que tout au long de la saison, vous n'avez eu de cesse de teaser le fait que ce personnage-là, dont on savait à partir du moment où il est dans le pitch, présumé mort, qu'à un moment donné, il va revenir. C'est dans l'ADN du soap. On pense à Maria dans Sunset Beach avec Ben, qui finit par revenir. Et vous n'avez eu de cesse que de présenter ce mec comme une épouvantable ordure qui a couché, qui a détruit la vie de tout le monde. Et on se dit, mais quelle explosion que ça aurait été de le voir arriver dans la série.
Ah oui. Et l'enfant caché, parce qu'on avait un quatrième Bartoli qui vivait en Espagne. Et notre rêve, c'était que Miguel Ángel Muñoz joue ce type-là.
Ça veut dire qu'un comédien a été casté pour jouer le grand-père?
Non. Bah, vous verrez, parce qu'en fait, c'est une allusion à Lucien. Mais
idéalement, vous auriez voulu qui pour jouer le grand-père?
Bah, on n'a pas eu d'évidence. On a eu plein de noms qui ont circulé, même dès le début, parce que au départ, on s'était dit qu'on le voulait assez tôt. On avait en tête à un moment donné, parce que je l'adore, Lionel Astier.
Ah oui.
Et qu'on s'est dit Lionel Astier face à Lena Noguera, face à Mohamed Areski, Gabriel Adjian, ça aurait été la folie, surtout s'il y a Miguel Ángel Muñoz. Donc oui, on avait tellement d'idées. Enfin, c'est un peu un gâchis, mais tout arrive pour une raison. Donc voilà, c'est.
Je propose qu'un jour on refasse une émission autour de l'écriture du feuilleton quotidien et du soap. Mais avec plein d'auteurs de soap.
Ah bah avec grand plaisir, parce qu'on aime parler.
Mais je sais, et tu as remarqué que moi aussi j'aime parler de ça. Donc on va refaire une émission, on fera une masterclass spéciale feuilleton quotidien. Là je vais le faire à l'occasion de Nouveaux Jours pour encore une fois soutenir toutes les équipes de cette série.
Bah merci, et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Et déjà tout ce que tu fais pour les auteurs, parce que tu es une des seules émissions qui prend en compte les auteurs, qui parle des auteurs, qui parle de l'écriture, et ça c'est vraiment génial. Et de nous avoir aussi soutenus sur Nouveaux Jours, parce que... Parce qu'on a quand même fait du bon travail, je pense, dans l'ensemble, et qu'on mérite qu'on parle de cette série.
Exactement, et c'est pour ça qu'on va continuer à le faire, et qu'on continuera à recevoir aussi ces jeunes comédiens. Je pense à Justine ou à Marion qui étaient sur la série, mais on avait envie de soutenir et de rappeler voilà, quel gâchis ça a été d'annuler cette série. Et en plus, bravo le timing de l'annuler en pleine arche sur les violences faites aux femmes. J'avoue qu'on ne peut pas rêver meilleur timing pour annuler une série.
L'élégance,
la classe. Je vais me faire des copains, moi aussi, je le sens bien. Bon, merci beaucoup Geoffrey d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On va continuer à parler des feuilletons quotidiens, une grande masterclass à venir. Mais en attendant, on se retrouve nous très vite pour un nouvel épisode de La Loi des Séries. Merci à Max qui était en régie et à très vite.